Un gros bobard et autres racontars de Björn Ryle.
Cet ouvrage a été lu à plusieurs voix par 6 collaborateurs de la société Odigo, qui s'est engagée aux côtés de l'Association des donneurs de voix dans un mécénat financier, ainsi que dans la réalisation de plusieurs ouvrages collectifs au bénéfice des personnes empêchées de lire.
Présentation. Sur les glaces du Grand Nord, un jeune gigolo tourne en rond, des ours se saoulent au whisky, et un squelette décide de s'émanciper de son propriétaire pour partir seul à l'aventure. Avec Björn Ryle, les trappeurs au grand cœur, chasseurs de phoques et buveurs invétérés défient leur solitude à grands coups de racontars tendres et surprenants.
Avertissement. Tous ceux qui ont voyagé dans le nord-est du Groenland hocheront la tête, reconnaissant nombre de ces récits. Ceux qui ont vécu sur cette riviera arctique pendant un certain temps pourront certifier que ce que j'ai consigné ici est absolument véridique, avec cependant peut-être quelques pudiques tendances à la litote. Ce livre est dédié aux nombreux malheureux qui n'ont pas eu la chance de connaître ce pays unique à temps. Björn Ryle, Zaïre, 1986.
Bernard.
Le gigolo, c'était un homme étrange qui n'avait pas débâillé un mot durant tout l'hiver que Sivert et lui avaient passé ensemble à la cabane du vent. Mais il grognait, expliqua Sivert, et la nuit, il grondait d'un air méchant dans son sommeil. C'était un compagnon renfermé et peu amène, qui, en toutes circonstances, restait le bec obstinément clos, ce qui le fit considérer comme muet. Sivert secoua la tête. « Ce fut une année difficile, avoua-t-il, et c'est peu dire que j'étais soulagé quand, l'été suivant, je l'ai vu rembarquer à Cap Thompson. C'est seulement quand il fut dans la yole avec les matelots d'Olsen qu'il se mit debout en nous menaçant, puis il hurla haut et fort, de manière à ce que tout le monde entende bien. « Bande de trous du cul !»
Marie-Hélène.
Un gros bobard. Après le repas, on s'attacha à goûter tous les distillats de la maison. Puis on distribua les cadeaux. Au hasard, en voici quelques-uns. Laszlil offrit à Muso une paire d'antiques lunettes héritées de sa grand-mère suédoise. Elles étaient étroites et ovales et d'une puissance telle que Muso en eut le vertige dès qu'il les posa sur son nez. Muso était visiblement très ému. « Ces lunettes, dit-il, c'est comme une demi-bouteille d'eau-de-vie. » Le lieutenant Hansen offrit à Walfred 6 mois de consommation de sardines à l'huile, et Walfred lui rendit ce geste avec 1,5 kg de gomina pour sa moustache. Mortensen eut une poire à garnir des cartouches, 2 livres de poudre noire et 500 cartouches vides en carton avec leurs boutons de liège. Maintenant, il ne lui manquait plus que le fusil. De la part de Fjordur, tout le monde reçut des serre-têtes et des foulards rouges champs qui étaient tellement longs qu'on pouvait les enrouler 4 fois autour du cou. Ils comprirent qu'il avait dû tricoter jour et nuit depuis le départ de la Vesle Marie.
Christophe.
Arthur ou l'alter ego de Walfred. Alors, Walfred avança un bras, gratta une allumette et parvint à allumer la lampe. Il rejeta sa couverture de côté pour tirer l'affaire au clair et vit à sa grande surprise qu'un squelette de taille adulte reposait à côté de lui. Il soupira, résigné. « Tu commences à t'y faire ?» demanda une voix caverneuse et inconnue. Walfred hocha la tête. Dieu, quel cauchemar! Il avait la bouche sèche, tant il était terrifié. T'avoueras que c'est un peu inhabituel, murmura-t-il la voix pâteuse. Qui es-tu, si je peux me permettre? Le squelette le fixait de ses profondes orbites creuses. Il claqua bruyamment des mâchoires plusieurs fois et dit. Je suis Arthur. J'essayais de me ménager un peu de repos, mais tu gigotes beaucoup. C'est pour ça que je t'ai donné un coup de coude.
Johanna.
Une histoire maritime. Les débris de glace du fjord, lourds de plus d'une tonne, étaient concassés ensemble dans un vacarme effrayant. Ils soulevèrent la Vesle Marie hors de l'eau et la hissèrent dans les airs. D'abord, elle bascula sur tribord, puis elle se redressa pour osciller sur bâbord, où elle fut éperonnée par un petit iceberg qui s'enfonça dans son flanc. Olsen parvint à se relever. « Putain de bordel !» hurla-t-il à l'amas de glace. « T'as pas les yeux en face des trous ou quoi ?» « Tu veux crever, mon rafio ?» Olsen le menaçait du poing. Il fixa le pont où la comtesse, un petit sourire confus aux lèvres, s'agrippait de toutes ses forces au bastingage. « Tout le monde sur le pont » hurla-t-il. « Dépêchez-vous, bande d'enfoirés, et n'oubliez pas la bonne femme !» Petit Pedersen donna la main à la comtesse. La comtesse secoua la tête. « Je suis désolée, monsieur le chasseur de fourrure, » dit-elle gentiment, « mais je ne peux vraiment pas, chaussée comme je suis. Si seulement j'avais eu mes bottines à lacets. » De la glace en bas, Olsen vociférait. « Alors ça vient, oui ou merde ?»« Elle veut pas. Elle dit qu'elle a pas les bonnes chaussures. » Le capitaine Olsen devint écarlate. « Assomme-la ! C'est un ordre !» Il la souleva avec un sourire plein d'excuses et quand Olsen beugla « Laisse tomber !» il la passa par-dessus bord.
« Jimmy !»
Un délicieux détour.
Allongé dans sa couchette, il écoutait le raclement de la glace contre le bateau et il avait des sueurs froides à l'idée de l'inévitable. La terreur grandissante tournée à la paralysie, Anton jaillit de sa couchette et sortit de sa cabine. Il avait pris une décision irrévocable. « Olsen » haleta-t-il une fois qu'il se trouva devant le capitaine sur le pont. « Veux-tu bien me rendre le service d'arrêter ton rafio et de me déposer ?» Olsen regarda le poète avec étonnement. « Vertigo à retardement » pensa-t-il. « Allons bon, tu veux déjà redescendre, Anton ? Tu trouves peut-être que ça va trop lentement et tu veux courir devant ?» Anton secoua la tête avec impatience. « Je veux plus aller au Danemark, » dit-il. « C'était un malentendu. Sois gentil, stoppe les machines et laisse-moi descendre, tout de suite. » Olsen se gratta la nuque. « J'ai peur que ça soit pas possible, Anton. Ton chef de station m'a payé pour ton retour, et dans ce cas, c'est mon putain de devoir en tant que capitaine de te faire faire tout le trajet. Mais allons plutôt dans le salon pour en discuter. » Et c'est ce qu'ils firent. Olsen se répandit sur les merveilles de l'Europe, tout en gavant Anton d'un genièvre visqueux. Anton perdit rapidement l'usage de la parole, la tête lui tournait, et il fixait le capitaine de ses grands yeux effarés.
Rodolphe.
Le club des joyeux montagneurs danois de 1897, et où l'on constate les méfaits de la prohibition sur les ours américains. Le cuisinier d'Orson dormait à point fermé, entouré de bière et d'eau de vie, quand le ciel lui tomba sur la tête. La tente s'écrasa sur lui, et il fut arraché à ses doux rêves par d'effroyables hurlements d'animaux sauvages et des coups violents sur le dos. Hurlant de terreur, il se débattit sous la toile de tente, arracha les piquets et sortit, hoquetant de frayeur, dans la nuit claire. Alors une vision d'horreur s'offrit à ses yeux. Deux gros ours, la gueule grande ouverte, étaient couchés sur la tente affalée. Ils grognaient et hurlaient en se roulant sur les caisses de bière coincées sous la toile. Le cuisinier prit ses jambes à son cou. Museau et Björken furent près de la tente d'un bond. « Prends l'eau de vie !» cria Björken. « Moi, je m'occupe des ours. » La seule île faillit cependant gâcher l'opération. De la plage, il avait vu un ours qui se déplaçait bizarrement au-dessus du sol. Il saisit son fusil, visa l'ours voltigeur et tira. Tout étonné, Laslil abaissa son fusil en voyant l'ours continuer son chemin sans broncher, tout en hurlant d'une voix ressemblant à s'y méprendre à celle de Björken. « Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On tire sur son chef de station maintenant ?»